Les programmes du studio Kalangou se poursuivent avec l'édition de 18h. Fidèles auditeurs, bonsoir, vous êtes en compagnie de Rouquette Abdraman. À la une de ce journal, deux pistolets de fabrication artisanale et un autre automatique saisis ce matin par les forces de défense et de sécurité dans un village de Balayara, région de Tillabéri. Toujours à Tillabéri, le phénomène de vol de bétail est récurrent. L'insécurité au nord du Mali favoriserait cette pratique selon le président du Conseil des éleveurs nord Tillabéri, Diallo Boubacar. Dans la rubrique habituelle du mardi « Femmes et bien-être », un entretien avec Dr Halima Diallo sur les raisons de la césarienne chez les femmes enceintes. Mardi 10 septembre 2019, bienvenue à tous dans ce journal. Deux pistolets de fabrication artisanale et un autre automatique ont été saisis ce matin par les forces de défense et de sécurité dans un village situé à environ 15 km au sud de Balayara, région de Tillabéri. Cette opération a pu être menée grâce à des informations reçues la veille. Moussa Seydou Agali, secrétaire général de la préfecture, au micro de Saidi Abdou Windentan.
Il s'agit d'une information qu'on avait reçue hier, comme quoi ils ont entendu des coups de feu à des reprises dans leur localité, notamment à la zone de l'Elefi. Donc suite à cette information, nous avons jugé utile de réunir le conseil départemental de sécurité et de procéder à des vérifications. Donc après vérification, nous avons ce matin vers 6h envoyé des éléments de la patrouille départementale renforcés par la gendarmerie pour aller faire une perquisition ou une vérification au niveau des familles. Donc, dans une des familles, effectivement, ils ont retrouvé en tout cas 3 pistolets, dont 2 de fabrication artisanale, 6 balles et 2 douilles. C'est des balles déjà utilisées. Donc, 4 personnes ont été interpellées pour des raisons d'enquête.
En visite samedi au Mali, le président nigérien Issoufou Mahamadou a évoqué avec son homologue malien la situation sécuritaire à la frontière entre les deux pays selon le site de la présidence du Niger. Selon le communiqué final issu de leur rencontre, les deux chefs d'État préconisent des échanges de renseignements, la mutualisation des moyens et la mise en place d'un comité transfrontalier de sécurité pour lutter contre le terrorisme. Le ministère nigérien de la Défense a dénoncé via un communiqué il y a 2 semaines le récurrent vol de têtes de bétail dans la région de Tillabéri. Pour Diallo Boubacar, président du Conseil des éleveurs nord Tillabéri, cette pratique dure depuis plus de 20 ans dans cette zone pastorale et accentuée par l'insécurité au nord Mali frontalier. Il est interrogé par Diallo Marema Kenda.
Le fait surprenant, c'est que c'est aujourd'hui que, en tout cas, les ministères parlent de ça. C'est le combat que le Conseil a toujours mené.
Pourquoi vous dites ça?
Moi, ça me fait 20 ans que je suis sur ce dossier. On n'a jamais senti le pouvoir public très proche de sa population quand ils sont victimes. C'est des milliers de têtes de bétail qu'on a enlevées. C'est des milliards que le Niger a perdu dans le nord Tillabéri. Mais ça, personne ne parle de ça. Nous, on parle. Et pour ça, on nous a arrêtés combien de fois? Tous les régimes qui se sont succédés ont géré ce dossier sans pour autant s'intéresser. Mais eux-mêmes, c'est bien si aujourd'hui ils réagissent. C'est bien si vraiment, après la réaction, leur communiqué, ils vont agir.
Quand vous dites qu'ils vont agir, vous attendez des dispositions qui doivent être prises par l'État nigérien.
Maintenant, on veut voir que la frontière soit en tout cas bien sécurisé. Nous voulons que les animaux qu'on a emportés au Mali soient réclamés, que l'État du Niger aille au Mali chercher nos bétails.
Alternative Espace Citoyen d'IFA a organisé hier une conférence publique sur le droit des réfugiés dans une situation d'état d'urgence. Le coordinateur régional tire la sonnette d'alarme sur ce qu'il appelle le recul des droits des réfugiés dans cette région en proie à l'insécurité. Il insiste aussi sur la nécessité de les protéger et de sensibiliser les communautés hôtes qui les accueillent. Mara Mamadou, jointe au téléphone par Nafisa Adamou Sirfou.
La région de Difa fait face depuis 2015 à des mesures de l'état d'urgence. Donc avec des corollaires, beaucoup de mesures de restriction. Mais la région aussi connaît la présence des réfugiés depuis bien avant. Donc là, aujourd'hui, après 5 ans, 6 ans, nous avons vu qu'effectivement, il y a des reculs par rapport aux droits de ces personnes. Surtout, il y a des velléités de faire déplacer les personnes réfugiées qui sont dans la région du Difa. C'est-à-dire, on va les isoler, les amener un peu plus au nord. Donc, nous disons qu'il y a des textes, il y a effectivement des lois, des chartes qui protègent les droits de ces personnes réfugiées. Donc, ce n'est pas parce que ce sont des réfugiés que nous allons les fermer, effectivement, comme on dit, les yeux et qu'on les fasse déplacer. Et maintenant, il y aura des conséquences. Après, nous allons crier. Donc, nous disons qu'il faut déjà tirer la sonnette d'alarme, sensibiliser ces communautés-là, mais aussi la population haute sur le droit de ces personnes réfugiées qui sont dans la région.
Les responsables du cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile relaxée hier par la cour d'appel de Niamey réclament réparation et exigent que ceux qui les ont arrêtés en violation de la loi soient punis. Il faut que dans ce pays, on commence à sanctionner pour les fautes de gestion, déclare Noumou Arzika, membre du CCAC. Il est au micro de Assoumane Achina.
Par la faute des gens, ça nous a fait subir plus d'un an de prison et de manière injuste. Et nous avons le droit légalement à un dédommagement. Vous avez entendu, on a parlé des dépenses encore en envoi au trésor public. Ça veut dire que ceux qui ont commis cette faute, ils ont commis la faute de nous arrêter de manière injuste. Mais c'est toujours sur l'État que ça va retomber. Parce qu'ils ont agi maladroitement au nom de l'État. Et que c'est l'État qui va payer les frais. Mais eux, ils vont continuer à considérer qu'ils peuvent continuer à circuler. Non, il faut que dans ce pays, on commence aussi à sanctionner pour les fautes de gestion des gens. Nous avons d'abord considéré que tout ce que le droit nous permet d'avoir, on va faire en sorte que ça puisse se faire. Et ensuite, nous allons exiger à ce que tous ceux qui sont véritablement des acteurs dans ces violations de ces dispositions légales, qu'ils puissent être dans la position aussi de payer pour ce qu'ils ont été amenés.
Plus de 3000 candidats concourent depuis samedi au Niger à l'examen unique de certification en santé dans les 8 régions. Après les épreuves théoriques, les épreuves pratiques ont commencé hier et se poursuivront jusqu'au 18 septembre prochain. Cette année, à la fin des travaux de la commission d'organisation, 460 dossiers ont été rejetés sur les 3813 déposés. Le secrétaire général du ministère de la Santé détaille les critères qui ont conduit à ces rejets. Dr Ranaou Abaché.
C'est d'abord les années qui sont non valides. Il y a aussi des diplômes non conformes ou non authentifiés. On ne peut pas rentrer dans une école si on n'a pas un BEPC, si on n'a pas un bac. La discordance entre le carnet de stage et le relevé de notes. Il y a une absence même de carnet de stage dans certains dossiers. Et l'absence ou la formation par alternance non présentielle. Souvent, des agents de santé qui sont sur le terrain, qui s'inscrivent dans une école et ils disent qu'ils vont suivre des cours. De temps en temps, ils vont descendre pour aller suivre les cours. Les modules ne sont pas valides. Et il y a aussi ceux qui ont abandonné, ont introduit leur dossier. Il y a aussi des dossiers qui sont incomplets en termes des pièces d'état civil qui ne sont pas légalisées ou qui sont du tout inexistantes dans les dossiers. Nous sommes retrouvés avec 460 dossiers à rejeter. C'est les 3813 dossiers reçus. Maintenant, avec les rejets, nous nous sommes retrouvés avec un nombre de 3353 qui ont été autorisés à faire l'examen. Toutes les régions constituent un centre d'examen. Donc, nous avons pratiquement 8 centres.
Dans une note de service en date du 5 septembre, le directeur général des douanes a instruit tous ses services d'empêcher la réexportation du riz blanchi et précuit vers d'autres pays. Damaradi Yakuba, président des commerçants importateurs et exportateurs du Niger, déplore cette mesure prise selon lui à cause de l'attitude protectionniste du Nigeria à l'heure de la zone de libre-échange continental ZLECAF et de la libre circulation des biens dans l'espace CEDEAO. Damaradi Ayuba est au micro d'Adama Dawaki.
Cette affaire de réexportation de riz, c'est une affaire très sérieuse. Elle est sérieuse à partir du moment où c'est une question qui, en réalité, touche un autre pays que le Niger. Nous faisons frontière et nous faisons affaire avec le Niger. À partir d'un certain moment, ils ont trouvé la nécessité pour eux de produire eux-mêmes un certain nombre de choses qu'ils consomment, dont le riz. Donc, selon eux, ils sont en train d'atteindre leur objectif quand, à partir de leur frontière, on leur fait rentrer d'une manière frauduleuse, d'après eux, ce même riz qu'ils sont en train de produire sur place. Ces mesures sont parties à partir de là. C'est le riz qu'ils appellent le précuit. Il est assez gros. Il n'est pas destiné au marché nigérien. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de nous intégrer à travers la CEDEAO, à travers la ZLECAF, quand des incidents de ce genre se produisent, moi je pense que ce n'est pas très bon. Moi je pense que pour régler ce problème-là, l'État doit prendre l'initiative de convoquer les opérateurs économiques à travers la Chambre de commerce, voir comment eux-mêmes les opérateurs économiques vont cesser, puisque c'est interdit, et maintenant voir comment les gens vont essayer d'écouler ce qui est là entre leurs mains et ce qui est en train d'arriver.
Du sport volleyball dans ce journal débuté le 3 septembre à Zender, la 9e édition du championnat national de Ligue 1 de volleyball s'est achevée samedi avec le score de l'ASCV Rimbo de Niamey face à l'AS Police de Niamey par 3-0. Selon Issoufou Issaka, directeur technique national de la Fédération nigérienne de volleyball, toutes les équipes se valent et le niveau de jeu est très impressionnant.
On a au total 16 équipes pour 5 journées de compétition. Vous comprenez quand même que c'est beaucoup de matchs, mais quand même, Dieu merci, on a pu épuiser tous les matchs sans difficulté jusqu'à la dernière journée aujourd'hui. Toutes les régions, à l'exception de Tillaberi, c'est probablement dû à un problème financier lié à la région, parce que vous savez, avec l'insécurité dans la zone, vraiment c'est très difficile, par exemple, pour les autorités de gérer l'aspect sécuritaire et aussi de gérer l'aspect compétition. Honnêtement, je suis très surpris de voir comment les gens ont évolué, surtout dans les régions. Présentement, c'est les matchs de demi-finale qui sont en train de se jouer pour déterminer les équipes qui vont disputer la finale ce soir. Et déjà, on connaît une des équipes parce que déjà la police vient de remporter son match de demi-finale face à Zender. On est en train de suivre présentement le deuxième match entre la SPB et la gendarmerie. Donc, l'équipe qui va remporter tout de suite ici va jouer la finale contre l'équipe de la police nationale de Niamey.
Propos recueillis par Mustapha Mamansani.
Studio Kalangou.
Les programmes de Studio Kalangou
à Tillaberi.
Sur la radio Tebouassi.
97.5 FM.
Studio Kalangou.
Et puis la partie magazine de cette édition. Plus de 17 000 cas de césarienne ont été enregistrés au Niger dans les maternités en 2016, soit un taux de 1,90% selon l'annulaire des statistiques sanitaires publiées en 2017. La césarienne est une opération chirurgicale gratuite au Niger qui consiste à extraire l'enfant de l'utérus de la mère. Une surveillance rigoureuse de la grossesse est nécessaire pour prévenir d'éventuelles complications lors de l'accouchement qui pourrait conduire à une césarienne. Docteur Halima Diallo, médecin gynécologue à la retraite, ancienne directrice du Centre national de la santé et de la reproduction à Niamey, explique.
En général, pourquoi fait-on la césarienne aux femmes enceintes?
On fait une césarienne dans plusieurs cas. D'abord, il y a des femmes qui ont des bassins tout petits. Par exemple, certaines femmes qui ont commencer à avoir les règles, on les marie, mais au moment de la grossesse, déjà son bassin qui était petit là ne va plus se développer. Donc elle va avoir un bassin rétréci par rapport à un fœtus normal qui a 2,50 à 3 kg. Si effectivement le fœtus ne peut pas passer, il faut faire la césarienne.
Donc là, en gros, la césarienne doit être faite avant que le travail ne soit déclenché.
Au contraire, la césarienne est faite quand il y a les contractions. On sent le mouvement de la tête et on sent aussi au niveau de la partie inférieure du ventre que tout est mou. Donc, on peut opérer.
On constate de plus en plus des femmes qui se font faire la césarienne par crainte de la douleur de l'accouchement.
C'est ce qu'on appelle la césarienne prophylactique. Elles ne veulent pas sentir de douleur, il faut les opérer. Maintenant, c'est la mode. Au fond, c'est la période d'expulsion. C'est en ce temps que vraiment elle sent les douleurs. Mais dès que la femme expulse la tête du fœtus, elle sent un soulagement. Elle oublie même toutes les contractions qu'elle a eues. On peut faire une césarienne prophylactique, mais quand la mère même peut-être a une contre-indication, ou bien le fœtus.
En faisant la césarienne, combien d'enfants à peu près la femme peut espérer avoir?
En tout cas, en tenant compte de l'état de l'utérus, parce que plus on déchire, plus l'utérus devient faible pour une autre grossesse qui doit aller normalement jusqu'à terme. La science et mis l'expérience aussi des gynécologues a démontré qu'après 4 césariennes, normalement, il est indiqué de faire une ligature de trompe. Même après 4 grossesses, là, elle peut encore avoir une grossesse. Mais l'utérus peut s'ouvrir même à 3 mois ou 4 mois de grossesse et avoir une hémorragie interne de la femme qui peut la faire partir. Donc, il y a des risques. À moins que ça ne soit le même gynécologue, la même sage-femme qui suit cette femme-là tout le temps et qui connaisse son état.
Après une césarienne, est-ce que la femme peut accoucher par voie basse?
Mais si déjà la femme a eu plusieurs césariennes, ça veut dire qu'elle avait un problème de ne pas pouvoir accoucher par voie basse. Si elle est suivie, elle peut accoucher. Et si son utérus n'est pas aussi abîmé, donc tant qu'elle voit les règles, tant qu'elle ovule, tant qu'elle a un homme qui a des spermatozoïdes normaux, évidemment, elle peut tomber enceinte. Elle peut accoucher aussi normalement, mais toujours assistée.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et au revoir.